Bonjour à tous. Alors, j'ai une question à vous poser pour commencer. Est-ce que vous croyez au hasard? Est-ce que vous croyez aux coïncidences? Ou est-ce que vous croyez que tout est déjà prévu? Tout était déjà écrit? Par exemple, quand vous rencontrez un ami en faisant vos courses, quand vous arrivez en retard pour un rendez-vous parce que votre RER a eu une panne, quand vous avez pu échanger avec votre voisin du TGV au sujet de la Bible, quand vous avez été accepté dans une école d'ingénieur à Compiègne alors que vous vouliez peut-être plutôt aller à Lyon. Alors oui, c'est des situations que moi, personnellement, j'ai déjà rencontrées et sûrement que vous avez aussi eu des rencontres de ce type. Et en fait, nous allons voir à travers le texte d'aujourd'hui que rien n'arrive par pur hasard, comme une sorte de roulette russe, ou comme le loto, mais que derrière ce hasard, nous voyons Dieu qui prend soin de son peuple à travers sa souveraineté, parce qu'il est un Dieu qui a le contrôle sur toute chose. Et ça a été le cas avec Ruth et le peuple de Juda, et c'est aussi encore notre cas aujourd'hui. Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui nous rejoignent dans notre série sur Ruth, on a commencé la semaine dernière sur Ruth 1. Je vais rappeler un peu de contexte. Donc Ruth, ça se passe durant la période, des juges. Mais avant cela, on a vu déjà qu'il y avait eu la sortie d'Égypte avec le Pentateuque. Donc le Pentateuque qui est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui sont 5 livres qui ont été écrits par Moïse. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert et puis ils ont commencé à conquérir. Donc c'est ce qu'on voit, le pays de Canaan, ce qu'on voit dans le livre de Josué. Et ils sont à peu près tous dans le pays, sauf la tribu de Dan qu'on voit dans Juges 17, pour ceux qui sont en train de lire Juges. Et du coup, on est dans une période qui couvre de 1400 à peu près à 1000 avant Jésus-Christ. 1400 à 1000 avant Jésus-Christ. Et Ruth, le livre de Ruth, se passe en 1100 avant Jésus-Christ. Voilà, pour ceux qui... Et cette période des juges, c'est une période qui est dite de déclin spirituel. Parce qu'à ce moment-là, plusieurs fois dans les juges, il y a une sorte de refrain qui revient, qui dit à ce moment-là, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et en fait, pourquoi? Parce qu'à la période des juges, il n'y avait pas de roi qui était là pour unifier les 12 tribus ensemble. Donc effectivement, il y avait des juges, mais ces juges étaient... on va dire des proto-rois, des gens, enfin, c'était un peu des avant-goûts de ce que devait être un roi, mais vous avez vu que tous ces juges, ils avaient tous des défauts. Quand Jephthé fait un vœu, il dit, bah, tiens, la première personne que je vais rencontrer, je vais l'offrir en sacrifice. Enfin, moi, je lis ça, je fais quoi? Enfin, au Samson, enfin, voilà, qu'on voit la vie de Samson, que je viens de lire aussi récemment. Ouais, ils étaient imparfaits. Et surtout, c'était des juges qui ont régné sur, pas tout le territoire, ça a été à chaque fois sur une ville ou peut-être sur plusieurs territoire, plusieurs tribus, mais jamais toutes les tribus en même temps. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et on est un peu vers la fin des juges, parce que juges, c'est 1400 à 1000 avant Jésus-Christ. On est en 1100, donc on est dans les 100 dernières années des juges. Et c'est à ce moment-là que se passe, que situe l'action du livre de Ruth. Et dans Ruth 1, nous avons vu que à travers le message central que nous partageait Pasteur Philippe, en temps de crise, se tourner vers Dieu est toujours pour nous la meilleure option. En temps de crise, se tourner vers Dieu est toujours pour nous la meilleure option. Et on a vu cela à travers trois angles. D'abord, on a vu Naomi, qui était une femme qui était devenue amère, qui avait une foi qui était certes ambiguë, parce que d'un côté, elle se lamentait parce qu'elle avait tellement perdu dans son deuil, mais en même temps, elle retourne en Juda, croyant que quelque part Dieu est en train d'intervenir en faveur de son peuple. Et puis, on a Ruth, deuxième personnage, une femme qui est particulièrement déterminée. Et on se souvient de ses paroles qui sont peut-être à l'origine d'un chant qui dit « J'irai où tu iras ». Ruth 1, verset 16, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Elle renonce à sa vie passée, à son peuple, à son ancien Dieu, pour se tourner vers son nouveau peuple, son nouveau Dieu, le Dieu de Naomi. Et enfin, troisième personnage, on a vu, c'était l'Éternel, ce Dieu souverain qui fait grâce. Et nous avons aussi parlé de cette notion de caméo, notamment de Stan Lee, hein, qui apparaît dans certains Marvel. Ce principe en fait, où le réalisateur apparaît brièvement dans l'action d'un film, de manière assez discrète. Et c'est un peu pareil que le livre de Juges. Il y a deux fois, on voit que l'Éternel intervient dans le livre de Ruth, pardon. Et les autres fois, on parle de l'Éternel, c'est les personnages qui parlent de l'Éternel. Ok. Et mon message aujourd'hui sur lequel j'aimerais insister, alors excusez-moi, ça c'est la géographie, donc c'est la carte, en faisant un zoom. Donc, ils sont partis, Ruth et Naomi, de Moab, probablement en traversant le Jourdain, pour arriver à Bethléem. Et Bethléem, c'est le lieu d'action où se trouve le livre de Ruth. Voilà. Donc, le message central que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu prend soin de son peuple à travers les circonstances qu'il dirige. Dieu prend soin de son peuple à travers les circonstances qu'il dirige, non seulement à l'époque de Ruth, mais encore pour nous aujourd'hui. Et vous allez voir que l'action se déroule sur une journée de 24 heures. Tout Ruth 2 se passe sur une journée de 24 heures, en tout cas jusqu'au verset 22, parce que 23, c'est, bah, tu peux rester jusqu'à la fin de la moisson. Mais voilà. Et on va voir que ce plan se déroule, en tout cas je vous propose un plan en trois parties. D'abord, dans un premier temps, nous allons voir que par hasard, avec un grand D, le champ appartient à Boaz. Ensuite, par hasard, encore une fois avec un grand D, et ce n'est pas une erreur, hein, c'est volontaire bien sûr, Boaz est bienveillant. Et enfin, troisièmement, nous allons voir que Naomi voit dans ce hasard la main de Dieu. Donc tout d'abord, par hasard, le champ appartient à Boaz. Et tout au long de mon message, en fait, je vais aborder ce texte de manière linéaire, c'est-à-dire verset par verset. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir vos Bibles papier pour suivre verset après verset. Je ne les ai pas forcément affichés parce que sinon ça aurait été un peu trop facile pour vous. Je voulais vous challenger un peu. Donc, si vous avez une Bible papier, je vous invite à l'ouvrir. Sinon, bah, vous avez droit quand même au smartphone. Hein, et pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez aussi prendre des notes parce que j'ai partagé pas mal d'applications qui peuvent encore nous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, si on commence, verset 1, 2. Naomi avait un parent de son mari. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Alors, stop, on s'arrête là. Le lien est très fort entre Naomi et Ruth. On voit que Naomi, elle l'appelle sa fille directement. Autre chose qu'on voit aussi, c'est que Ruth, elle a un très fort caractère. Elle ne peut pas rester les bras croisés. Elle sent qu'il faut qu'elle passe à l'action, qu'elle doit faire quelque chose pour aider sa belle-mère et elle à survivre à Bethléem. Et on voit qu'elle propose d'aller ramasser, c'est elle qui propose. Elle propose d'aller ramasser des épis dans un champ. Et ça montre en fait que Naomi l'avait instruite sur cette règle du Pentateuch. Donc Pentateuch, vous vous souvenez, hein, c'est Genèse jusqu'à Deutéronome. Et Ruth commence, en fait, on va à adopter les coutumes de son nouveau peuple, en fait. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et ce droit de ramasser des épis tombés, donc le droit de glaner, dans le terme de l'agriculture, c'est une règle qui est que, dont le but, pardon, était de subvenir aux besoins des pauvres et d'empêcher les propriétaires d'avoir trop de réserves. En fait, c'était une sorte d'assistance sociale. Et on le voit particulièrement dans deux passages, il y a plusieurs passages, mais j'en ai choisi deux. Lévitique 23, 22. Donc, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 24, 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu y auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Ça concerne particulièrement Ruth et Naomi parce qu'elles sont à la fois pauvres. Ruth, elle est étrangère et en plus, elle est veuve. Donc c'est, voilà, ça concerne totalement leur situation. Ensuite, Ruth va ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Élimélec, verset 3. Il se trouva, moi, dans la version Semer ou Second 1910, pour ceux qui l'ont, il se trouve que par hasard, il est vraiment écrit par hasard dans la version du Semer ou la version 1910. Et dans la nouvelle édition de Genève, il écrit par bonheur. Donc voilà, Mais en tout cas, il y a ça qui a été rajouté. Second 21, bon, on a enlevé, mais c'est le texte qu'on vient de lire, il n'y a pas cette notion. En tout cas, souvent, il y a une expression française qui dit que le hasard fait bien les choses, mais je crois que c'est Dieu qui fait bien les choses, parce que c'est lui qui est au contrôle de tout. Et Ruth, je pense, ne percevait pas forcément que Dieu, en fait, était en train de la diriger, qu'il accompagnait chacun de ses pas. Et elle a choisi un champ pour ramasser des épis, sans savoir que ce champ appartenait à Boaz, un proche parent de son beau-père, Élimélec. Et ce n'est pas juste une coïncidence. Comme l'a dit Philippe dimanche dernier, Dieu dirige les circonstances de notre vie en vue d'accomplir son plan. Pas notre plan, son plan. Et c'est encore le cas ici. Et comme application peut-être pour nous, ben je propose que c'est vrai que quand on regarde en fait en arrière sur notre vie et qu'on prend un peu plus de recul, alors on peut bien sûr compter les bienfaits, comme le dit ce chant, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Mais au-delà de ça, on peut aussi se rendre compte que c'est Dieu qui nous a dirigés jusque-là où nous en sommes aujourd'hui. C'est vraiment chaque étape de notre vie, que ce soit une victoire ou un échec, ça nous a amené pas à pas exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Et à titre personnel, j'ai fini mes études en 2011, donc ça commence un peu à dater, hein, ça fait il y a 10 ans, tous ceux de 88 ou de 87, vous reconnaîtrez aussi, pour la plupart d'entre vous. Et quand j'ai fini mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études à Lyon. Et j'avais eu la possibilité de rester à Lyon parce que je m'étais fait des amis, j'avais une église dans laquelle j'étais investi, j'avais un super pasteur, enfin, franchement c'était la classe. Et néanmoins, à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'ai fait le choix de rentrer chez mes parents. Non pas pour mettre de l'argent de côté, même si forcément ça aide un peu, mais pour, entre autres, plusieurs raisons. La première, c'était d'être plus proche de mon petit frère, un certain petit frère qui allait rentrer dans l'adolescence. Donc à ce moment-là, il avait 13 ans, hein, si vous me disiez en arrière. Et vous savez, la période d'adolescence, on ne sait jamais, ça va mal tourner, donc j'avais vraiment à cœur d'être là pour lui. Et la deuxième chose, c'était pour pouvoir bénir l'église de Saint-Maur parce que bah, j'étais parti à Lyon, j'étais parti à Montréal, j'avais vécu plein de trucs et j'avais envie de partager aussi avec les frères et sœurs ce que j'avais reçu. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, si je n'étais pas retourné à Paris, qu'est-ce qui serait passé? Bah, peut-être que je n'aurais pas trouvé du travail aussi rapidement, parce qu'il se trouve que je suis rentré fin août à Paris et en octobre, j'ai trouvé du travail, donc c'était super rapide. Je ne sais pas si mon petit frère aurait mal tourné, on ne sait pas. Hein, c'est, je ne sais pas si l'église de Saint-Maur aurait été moins bénie par mon absence, ça j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je suis encore dans cette église 10 ans plus tard, que j'ai aujourd'hui un travail qui est très stable, avec une position de manager que je n'ai pas forcément recherché, mais que j'ai eu. Et que j'ai aussi un super petit frère qui marche dans le Seigneur avec foi et obéissance et qui porte du fruit avec ses dons dans le monde francophone. Et c'est vrai qu'au moment de mon choix, je ne me rendais pas compte tout de suite des conséquences qu'il y allait y avoir derrière. Et je pensais juste, bah, je savais que c'est le Saint-Esprit qui me guidait à faire ces bons choix sur le moment. Et j'entendais vraiment la paix dans mon cœur. Mais c'est ensuite, quelques années après, hein, je n'ai pas besoin d'attendre 10 ans pour me rendre compte de ça, mais c'est quelques années après que je me suis rendu compte comment Dieu a conduit finalement chaque circonstance de ma vie et comment il a pris soin de moi pour amener là où il veut que je sois maintenant, tout de suite, là. Et je pense que c'est pareil pour chacun d'entre vous. Vous avez vécu quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est ce que j'aime énormément dans les attributs de Dieu. Je me rappelle, on avait fait, je ne sais plus si c'était un week-end ou un week-end sur la prière, on avait vu les attributs de Dieu. Et moi, l'attribut qui me parle énormément, c'est le fait, c'est sa souveraineté. C'est vraiment le fait qu'il est au contrôle de toute chose. Et il sait tout ce qui va se passer, pas parce qu'il voit l'avenir, mais parce qu'il dirige l'avenir. Il dirige les circonstances. Donc, si je reviens à notre texte, je reprends verset 4 à verset 7, pour ceux qui suivent avec moi dans la Bible. Verset 4 à verset 7. Or, Boaz vint de Bethléem, il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment de la maison. Alors déjà, quand on voit Boaz qui dit que l'Éternel soit avec vous et qui répond que l'Éternel te bénisse, on voit que déjà cette expression de Boaz, que l'Éternel soit avec vous, ça témoigne de sa piété. On a eu au verset 1 que, quand on lit le verset 1, on voit que Boaz est quelqu'un de riche, de puissant. Et là, on voit que c'est quelqu'un de pieux, qui a vraiment cette foi dans le Seigneur. Et j'aime beaucoup en fait cette façon qu'ils avaient de se saluer, de se bénir à l'époque. C'était vraiment, on mettait l'Éternel à chaque fois qu'on se saluait. Et je me dis peut-être qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on pourrait peut-être s'en inspirer en incluant peut-être le nom de Dieu dans notre manière de nous saluer. Que l'Éternel te bénisse, frère Samuel, frère, voilà, on pourrait juste se saluer comme ça. Ça ne serait pas forcément bizarre, mais je pense qu'on pourrait essayer, par exemple. Voilà. Donc on a vu que par hasard, avec un grand D, le champ appartient à Boaz. Maintenant, on va voir que par hasard, encore une fois avec un grand D, Boaz se trouve être quelqu'un de bienveillant. Donc on va lire versets 8 à 9. Suis avec moi. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Boaz dit à Ruth, écoute ma fille. Donc si Boaz l'appelle ma fille, on peut supposer qu'il était suffisamment âgé pour être son père et qu'il serait plutôt davantage de la même génération de Élimélec que de celle de Ruth. Et Boaz ici, il fait preuve de bonté et de bienveillance. Et merci le groupe de louanges pour les chants sur la bienveillance. C'est totalement dans le thème. Et c'est vrai qu'il y avait cette règle qu'on a déjà parlé, de laisser glaner les épis. Et il aurait pu être juste indifférent en se disant bah, « Ok, je la laisse faire et je ne sais pas c'est qui, mais au moins, bon, ça se fait. » Voilà. Mais il se trouve que non, en fait, il ne la laisse pas juste faire comme ça, mais il la conforte dans le choix qu'elle a fait de glaner, de ramasser les épis dans son champ à lui. Et il montre qu'elle est réellement la bienvenue. Il lui dit que non seulement elle sera protégée, mais qu'en plus, elle pourra se désaltérer lorsqu'elle en aura besoin. Et devant tant de gentillesse, de bienveillance, verset 10, on peut lire ensemble, « Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Ruth reconnaît que Boaz n'est pas indifférent et qu'il accepte d'échanger avec elle. Et en plus, il l'a bénie avec ses paroles. Et elle sait qu'elle est étrangère, elle sait qu'elle est moabite à la base. Et que lui, comparé à elle, bah, c'est un riche propriétaire qui est israélite. Et elle fait preuve d'humilité, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tombe à ses pieds. Et quelque part, en tombant à ses pieds, elle lui montre qu'elle reconnaît son autorité. Et là, je vais avoir une série de plusieurs applications par la suite où nous allons voir que la situation entre Boaz et Ruth pourrait s'appliquer à nous, en fait, entre Jésus vis-à-vis de nous. Donc Boaz qui représenterait Jésus pour nous, et nous qui aurions le rôle de Ruth. Par exemple, tout comme Ruth tombe au pied de Boaz face à tant de bienveillance, eh bien, est-ce que, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas aussi tomber au pied de Jésus lorsqu'il nous manifeste tellement d'amour, de bénédiction, et alors que nous ne les méritons pas ? Je répète, tout comme Ruth tombe au pied de Boaz face à tant de bienveillance, est-ce que nous ne devrions pas nous aussi tomber au pied de Jésus devant tellement d'amour, de bienveillance, de bénédiction, alors même que nous ne le méritons pas ? On ira un peu plus loin après dans les applications. Donc je vais continuer à lire le texte, verset 11. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » On voit aussi que Ruth a des qualités, elle est courageuse, elle est fidèle à sa belle-mère, elle travaille dur, elle a bon cœur. Et ses qualités, elles sont visibles de tous, et ça revient même jusqu'aux oreilles de Boaz. En fait, elle vivait de manière cohérente avec ce qu'elle croit. Elle n'avait pas une attitude qui était différente entre quand elle était chez elle et quand elle était au travail. Elle n'avait pas d'attitude différente entre quand elle était chez elle et quand elle était au travail. Et pour nous, est-ce que parfois nous avons une attitude différente au travail par rapport à la maison ? Est-ce que parfois nous portons un masque pour nous protéger au travail, pour faire croire que peut-être nous sommes quelqu'un de bien et de sans défaut, alors qu'en fait, on ne l'est pas ? Et où est-ce que nous sommes tout aussi transparents qu'à la maison et que nous sommes prêts, lorsque nous faisons des fautes, des erreurs, à reconnaître nos faiblesses
on peut s'inspirer encore une fois de Ruth qui était cohérente dans sa vie, à la maison et au travail. Et on voit que Boaz s'est renseigné sur ce que Ruth avait fait. Et c'est probablement parce qu'il a su que Ruth avait pris soin de sa belle-mère qu'il lui fait preuve de tant de bienveillance. Et quelque part, on peut voir ça un peu comme une récompense pour elle. Et mais surprend l'exemple de Boaz qui serait Jésus. Boaz, il fait preuve de bienveillance parce qu'il sait ce qu'elle a fait. Donc quelque part, c'est comme si elle le méritait un peu. Mais Jésus, il fait preuve de bienveillance pas parce qu'on mérite quelque chose, mais il le fait par grâce. Indépendamment de ce que nous avons fait, il le fait par grâce. Et en plus, Jésus ne nous donne pas juste de pouvoir glaner derrière un champ. Jésus nous donne cette vie en abondance que nous avons en lui. Il nous a donné sa vie pour que nous puissions vivre notre vie pour lui. Donc voilà, vous voyez vraiment ce parallèle entre Boaz et Jésus. Et de plus, cette récompense, notre récompense, nous savons que nous l'aurons au ciel. Et néanmoins, on sait qu'on peut faire des bonnes actions. Et il peut arriver qu'on reçoive des récompenses sur terre liées à nos bonnes actions, mais ce n'est pas ce que nous devrions chercher absolument. Okay ? Ce n'est pas ce que Ruth a cherché lorsqu'elle a suivi sa belle-mère Naomi. Mais là, en tout cas, elle reçoit une récompense pour son comportement. Verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Encore une fois, on voit ici la piété de Boaz qui encourage Ruth par des paroles de bénédiction. Et pareil pour nous, en termes d'application, nous pourrions aussi... on voit dans la parole que Dieu nous demande de nous encourager les uns les autres, de porter les fardeaux les uns des autres. Je pense à Galates 6, verset 2, par exemple. Et ici, il nous donne un superbe exemple avec Boaz. Peut-être qu'on pourrait s'en inspirer et apporter des paroles de bénédiction à notre prochain et aussi à nos proches, nos frères et sœurs de l'Église. Et j'ai un défi pour vous cet après-midi. En tout cas, si vous êtes d'accord, pendant une semaine, essayez de bénir et d'encourager chaque jour une personne différente dans la semaine. Okay ? Chaque jour, une personne différente pendant une semaine. Donc, 7 personnes que vous avez à cœur de bénir ou d'encourager. Ça peut être s'appeler, ça peut être se voir, ça peut être juste envoyer un message, mais voilà. Je continue, Boaz, il fait un parallèle entre le fait de s'abriter sous la protection de Dieu et le fait de se réfugier un oiseau sous les ailes de sa mère. Et ça, on voit deux exemples dans le psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il te couvrira de ses ailes, tu trouveras un refuge sous son plumage, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc psaume 91, verset 4. Et psaume 57, verset 2. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. On va lire verset 13, la réaction de Ruth. Elle dit, ô, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Ruth savait que les servantes, elles avaient un statut privilégié en Juda et c'était normal finalement qu'elles étaient au bénéfice de cette bienveillance de la part de Boaz, de leur maître. Mais Ruth, elle n'est même pas une servante et en plus, elle est une étrangère. Donc elle dit, c'est incroyable que je trouve autant de grâce auprès de toi. Elle se reconnaît comme n'étant pas digne de recevoir ses grâces. Et elle en fait part avec authenticité, c'est-à-dire elle évoque ce qu'elle ressent et elle en fait part, l'authenticité, et lui parle avec son cœur. Et dans notre relation avec Jésus, eh bien, nous pouvons aussi faire preuve d'authenticité, donc de parler avec notre cœur, de dire vraiment ce qu'on ressent. Comme Ruth l'a fait envers Boaz, alors que Ruth, elle connaît Boaz depuis même pas une journée, et elle lui parle comme ça avec son cœur. Et nous qui connaissons notre Seigneur Jésus depuis peut-être plusieurs années pour certains, eh bien nous sommes aussi encouragés, je pense, à faire preuve d'authenticité dans notre relation avec lui, dans notre culte personnel notamment. Verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Boaz n'était pas obligé de lui offrir un repas. Il aurait pu juste se contenter de la laisser ramasser des épis dans son champ. Mais ici, il lui permet non seulement de manger à table, il dit, vas-y, sers-toi, je t'invite à te servir. Il ne donne pas de limite, il ne dit pas, je te permets de prendre un grain ou deux grains, mais il ne donne pas de limite en fait. Du coup, on voit qu'elle peut manger à satiété. Elle qui est une pauvre Moabite, qui était veuve, eh bien, elle peut manger à sa faim. Et ça contraste vraiment avec la situation qu'elle avait auparavant. C'est vraiment une grâce de notre Seigneur qui lui permet à ce moment-là. Verset 15, « Puis elle se leva pour amasser des épis. » Alors, ils viennent de manger le repas du déjeuner, hein, le repas du midi, et elle a peut-être bien mangé, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle se retourne se reposer ? Non, pas du tout. Elle se sait chargée d'une mission, elle doit ramasser des épis pour leur subsistance à Naomi et à elle, et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle retourne travailler. Et quelque part, il y a un temps pour manger, un temps pour se reposer, et il y a un temps pour travailler. C'est vraiment ce qu'elle applique. Et peut-être aussi que Ruth, face à tant de bienveillance de Boaz, ça l'a carrément motivée pour aller encore plus, aller travailler encore pour elle et sa belle-mère. Et comme application pour nous aujourd'hui, eh bien Ruth a reçu par grâce cette bienveillance de Boaz, et nous aussi, nous recevons cette bienveillance, cette grâce de Jésus. Et nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes sauvés grâce à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il est mort pour nous, il a pris nos péchés, afin que nous croyions en lui et que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Mais tout comme elle, à la base, nous en étions indignes. Et en plus, la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés pour accompagner, pour réaliser des œuvres bonnes derrière tout ça. Pas pour nous tourner les pouces en disant bah, « je suis sauvé, du coup je fais ce que je veux de ma vie », mais vraiment pour servir le Seigneur, pour faire des bonnes œuvres. Parce que la grâce de Dieu produit toujours du bon fruit. La grâce de Dieu produit toujours du bon fruit. Soyons reconnaissants donc pour cette grâce et continuons à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et j'aimerais vous partager un verset dans ce sens. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Donc 8 et 9, vous savez, on connaît très bien. Hein. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh! Donc je continue de lire dans verset 15 au verset 16. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez pour elle des gerbes, quelques épis que vous laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Donc là, on voit que encore une fois, dans sa bienveillance, Boaz, il lui a permis de ramasser les épis. Ok, fine, c'est normal. Ensuite, deuxièmement, il lui permet de manger le repas avec ses servantes, ses serviteurs. Et là, troisièmement, il dit carrément à ses serviteurs, ok, vous avez carrément enlevé directement des épis pour qu'elle puisse les ramasser. Pour que, en fait, elle puisse avoir une super récolte, une abondante récolte. Et quelque part, Dieu s'est servi dans ce hasard pour montrer à Ruth qu'il était en train de prendre soin d'elle, prendre soin de Naomi. Et ça, Naomi va le découvrir par la suite. Et comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui ? Eh bien, lorsque nous mettons au travail, avec de bonnes dispositions de cœur, il se peut que nous soyons récompensés au-delà de nos propres attentes. Ici, Boaz, il fait grâce à Ruth. Mais peut-être que Dieu aussi nous fait grâce lorsque nous obtenons des récompenses de notre travail. Alors directement, on pense à une augmentation ou un changement de poste, mais ça peut être aussi un mot d'encouragement, ça peut être un cadeau, des félicitations, enfin des choses comme ça. Et rien que ça, ben, ok, on a juste fait notre travail, mais on a reçu des récompenses et c'est toujours agréable de les accueillir et de remercier le Seigneur pour cela. Et deuxièmement, c'est de plutôt se placer du côté de Boaz et de dire, bah, est-ce que nous serions prêts aussi, comme Boaz, à dépasser le cadre convenable ? C'est-à-dire qu'il y avait un cadre qui disait, bah, vous laissez glaner les épis et c'est normal, ok, c'est la loi, c'est Deutéronome, c'est Lévitique qui le dit, ok. Mais Boaz, il allait plus loin que ça pour aider les plus pauvres. Et il ne s'agit pas forcément uniquement de donner de l'argent, parce que je pense que c'est un peu le premier réflexe que nous avons de dire, bah, ok, je peux donner un peu d'argent, ça ne va pas changer ma vie non plus. Okay. C'est bien, hein, mais Ça peut être aussi d'inviter quelqu'un à manger, passer du temps avec lui, lui acheter des aliments pour cuisiner. Et en faisant cela, nous respectons aussi le commandement de Jésus dans Luc 14, versets 12 à 14, qui dit en gros d'inviter ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Donc, je vais le lire, Luc 14, versets 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Donc, moi, je vois vraiment bien ce passage pour illustrer jusqu'à quel point Boaz est allé au-delà de ce qui était convenable, de ce qui était le strict minimum. Et on va continuer dans une troisième et dernière partie. Nous allons voir que Naomi voit dans ce hasard, avec un grand D, la main de Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles et lire versets 17 et 18. Donc versets 17-18, elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. En fait, Ruth avait intentionnellement gardé les restes de son repas parce qu'elle avait vraiment à cœur de partager le peu qu'elle avait reçu comme repas, de le partager avec sa belle-mère. Et pareil pour l'abondante récolte, la grande récolte qu'elle a eue, aussi la partager avec sa belle-mère. Et ça, encore une fois, ça témoigne de son affection qu'elle avait envers sa belle-mère. Verset 19, sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. » Et là, on voit en fait dans ce verset 19 le début d'un déclic dans la vie de Naomi, le début d'un déclic. Et ça contraste énormément avec ce qu'on a lu dans Ruth 1, versets 20 à 21, la semaine dernière, que je vais lire, où on voyait qu'elle était remplie d'amertume. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a remplie d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. » Elle ne s'attendait sûrement pas que le matin même, en envoyant sa belle-fille ramasser des épis, elle reviendrait avec une énorme quantité, 22 litres d'orge, et en plus un repas derrière. Et elle savait que quelque part, ces 22 litres d'orge, c'était une quantité qui était anormale pour une simple journée de travail, de ramassage d'épis. Et ça commence à éveiller sa curiosité. Et je pense qu'il y a de l'enthousiasme dans sa question. Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Et elle va même jusqu'à dire, béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Donc elle est en train de prononcer elle, qui était amère. Elle prononce une parole de bénédiction pour celui qui a béni sa fille et sa belle-fille pardon, et sa famille. Et je pense que petit à petit, elle a retrouvé cette partie de foi qui était un peu enfouie et pour pouvoir commencer à bénir ce propriétaire. Et on va voir que ça va aller crescendo, hein, parce que verset 20, on va lire ensemble, verset 20 jusqu'à 22. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Quand Naomi sait que ce champ appartient à Boaz, là, elle redouble d'enthousiasme. Il y a le véritable déclic qui se fait à ce moment-là. Elle bénit Boaz par l'Éternel. Et on voit ici que, quelque part, sa foi, malgré son amertume, était toujours vivante et qu'elle remercie Dieu pour sa bonté envers sa famille, malgré sa détresse qu'elle avait vécue. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Ruth 1, verset 8, elle a utilisé ce même mot « bonté » pour bénir ses deux belles-filles en disant « bah, retournez auprès de vos mères. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Ruth 1, verset 8. Et la raison pour laquelle, parce qu'on se pose la question pourquoi elle est si enthousiaste, eh bien, c'est lié à la notion de rachat. Donc cette notion de rachat, on appelle cela loi du Lévirat, c'est explicité dans Deutéronome chapitre 25, verset 5. Deutéronome 25, 5. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Donc, comme vous voulez le lire, là, on parlait de famille vraiment directe, mais probablement que c'est une loi qui s'est également appliquée à la famille un peu plus lointaine, pour ceux qui n'avaient pas forcément de famille proche qui était encore vivante. Et en fait, cette notion de rachat, l'idée, c'était de reprendre le patrimoine du défunt, de la famille, pour perpétuer le nom du défunt, pour que son nom continue d'exister quelque part dans le peuple d'Israël. Et cela sous-entendait en fait que Boaz pouvait acquérir le patrimoine d'Élimélec et de Naomi, et y compris, ça voulait dire aussi, épouser Ruth pour permettre à Élimélec d'avoir une descendance. Mais je n'en dis pas plus, parce que c'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans Ruth 3. Donc Naomi, elle voit clairement dans ce hasard la main de Dieu. Vous vous souvenez, chapitre 3, on disait que c'était par hasard. Ben non, c'est pas par hasard en fait, c'est la main de Dieu. Naomi, elle discerne la main de Dieu et elle voit renaître son espérance. Dieu prend soin d'elle, il ne les a pas abandonnés. Dieu prend soin d'elle et de sa belle-fille, il ne les a pas abandonnés. C'était un acte de foi de sa part à elle de retourner à Bethléem en Juda, et quelque part, elle commence à être récompensée pour cela, pour ce petite foi qu'elle avait au début en revenant. Et ce déclic, ce qui est intéressant, c'est que Ruth 2, verset 20, quand vous regardez dans les versets, c'est pile poil au milieu du livre de Ruth. C'est vraiment le verset central qui est un déclic dans le livre de Ruth. D'accord ? Donc c'est assez impressionnant. Et comme application pour nous aujourd'hui, bien, on avait déjà un peu parlé de ça aussi la semaine dernière, nous pouvons ressentir de l'amertume, peut-être face à une certaine situation que nous vivons. Mais ce texte nous encourage à ne jamais être désespérés. Et comme l'a bien rappelé Pasteur Philippe dimanche dernier, nous pourrions croire que dans une épreuve, Dieu est en train de nous juger. Et c'est vrai que dans Ruth 1, verset 20, Naomi a dit « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume ». Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ce n'est pas Dieu qui a rempli quelqu'un d'amertume. Nous avons une amertume, mais ce n'est pas Dieu qui en est à l'origine. Romains 8, verset 1, nous rappelle qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et un peu plus loin, dans Romains 8, on dit que Dieu est pour nous et pas contre nous. Parfois, Dieu va utiliser des épreuves pour nous instruire et nous corriger, comme ses enfants. Et si nous avons mis notre foi en lui, nous savons que nous sommes ses enfants. Mais il ne le fait jamais pour châtier délibérément. Il le fait toujours dans un but. Et dans le cas de Naomi et de Ruth, Dieu a utilisé une situation très précaire de ces deux femmes pour quelque chose de plus beau. Et quelque chose de plus beau qu'elles n'avaient même pas pu anticiper et qu'elles ne connaîtront même pas elles-mêmes par la suite. Ruth va avoir un rôle dans la généalogie de Jésus, mais elle ne saura pas forcément elle-même. Et ça, pareil, je n'en dis pas plus, ce sera abordé dans les deux prochaines semaines. Et moi, personnellement, j'ai vécu quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ça remonte en fin 2014. Donc, je me suis marié en août 2014, des étoiles plein les yeux. J'étais content, j'avais mon travail. Et en plus, c'était une boîte de gestion des eaux pluviales, donc c'était génial, c'était l'environnement et tout. Et fin 2014, la boîte a coulé dans le sens propre du terme. En fait, j'ai perdu mon emploi. Et c'était un peu la douche froide parce que on vivait sur un salaire et puis j'allais probablement aller au chômage. Et au moment, c'est arrivé. Je sais pas. Enfin, j'ai vraiment ressenti une paix incroyable. J'étais en mode c'est Dieu qui permet et je vais voir par la suite. Et je sais qu'il y a 7 ans, j'étais encore plus jeune dans la foi que maintenant. Mais en tout cas, sur le moment, j'avais une paix qui venait de Dieu. Et même avec Tatiana, on était tous les deux en mode c'est pas grave, on fait confiance à Dieu, on croit que Dieu est fidèle et nous en tout cas on lui restera fidèle et on va compter sur ses promesses. Et il se trouve que je connaissais quelqu'un qui travaillait dans une boîte dans le bâtiment et du coup je lui dis j'ai vu que dans ta boîte ça recrute, il m'a dit si tu veux je te mets en relation. Et du coup, j'ai juste postulé dans une seule boîte. Et pendant tout le process, parce que c'était un licenciement économique, donc ça prenait un peu de temps, pendant tout le process, bah, j'ai eu le temps de passer des entretiens. Et un mois après mon licenciement, bah, j'ai pu commencer mon travail dans une nouvelle boîte. Et bah, c'est la grâce de Dieu, quoi. Enfin, vous voyez, sur le moment, j'aurais pu dire, ah, vas-y, c'est la fin du monde et tout. Et en fait, bah, j'ai vraiment pu voir la main de Dieu dans cette situation. Et probablement que si la boîte n'avait pas coulé, je pense que je me serais un peu ennuyé parce que ça faisait 3 ans et demi que j'étais dans cette boîte et que je pensais avoir vraiment fait le tour. Et Dieu m'a permis d'aller plus loin et de changer carrément de métier, être dans une boîte qui travaille dans le bâtiment et ensuite changer de boîte et être là où je suis maintenant. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, il n'y aurait pas eu ce déclic, il n'y aurait pas eu cette boîte qui a coulé. Ça n'aurait pas permis à ce que je sois là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Et j'ai pu voir vraiment dans cette épreuve la bonté de Dieu. Et Naomi, ce qu'elle vit, en fait, c'est un peu comme ce que nous pouvons vivre. C'est lorsqu'on redécouvre à quel point Dieu est bon dans nos épreuves. Lorsqu'on redécouvre à quel point Dieu est bon dans nos épreuves. Lorsque nous voyons la main de Dieu dans notre épreuve, c'est là où on vit un déclic. C'est alors qu'on ne voit pas juste les épreuves, on ne voit pas juste les océans qui se déchaînent, comme on l'a chanté tout à l'heure, mais on est tranquille parce qu'il est là avec nous, parce qu'il est présent avec nous, parce que Jésus est présent avec nous. Et nous reprenons espoir parce que nous savons que Dieu nous soutient et que Dieu nous accompagne. Et bien sûr, c'est important quand tout va bien de se souvenir de ces choses, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Mais c'est surtout important de le savoir et de se le rappeler pour les jours d'orage, pour les jours où ça ira moins bien. Parce qu'à ce moment-là, on sera agrippé à cette ancre solide qui est notre Seigneur Jésus, notre forteresse, notre refuge. Et il y a plein d'images qui sont utilisées dans la Bible, dans les psaumes, et c'est vraiment pour dire à quel point Dieu est un Dieu stable sur lequel nous pouvons encore nous reposer aujourd'hui. Et en effet, Dieu prend soin de nous tout en étant au contrôle des circonstances que nous vivons. Cette souveraineté de Dieu est toujours accompagnée de bonté envers son peuple. Et si nous avons aussi une épreuve depuis un certain temps, essayons de considérer chaque jour comme une occasion d'expérimenter la grâce de Dieu. Et avant de conclure, bon, à la fin du texte, on voit que dans les versets 21 à 23, Ruth elle va retourner dans le même champ tous les jours jusqu'à la fin de la moisson. Donc on sait que c'est passé plusieurs journées de ce type jusqu'à la fin de la moisson. Et donc pour conclure, nous avons vu que par hasard, le champ appartient à Boaz. Par hasard, Boaz est quelqu'un de bienveillant. Et troisièmement, on a vu que Naomi voit dans ce hasard la main de Dieu. Vous avez compris, je pense, que derrière ce hasard avec un grand D à la fin, c'est pour dire que c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est en réalité au contrôle dans l'histoire de Ruth et de Naomi, mais également dans notre histoire, à chacun d'entre nous. C'est le même Dieu qui est au contrôle de notre vie. Dieu prend soin de son peuple à travers les circonstances qu'il dirige. Et pour finir, je vous invite à lire ensemble Romains 8, versets 28 à 30. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Je vous invite à prier. Seigneur, mon Dieu, nous savons que, à travers ce texte, toute situation qui survient, et en particulier peut-être des crises liées au Covid dans nos différentes vies, Seigneur, eh bien, toutes ces choses contribuent à notre bien, au bien de tous ceux qui t'aiment, Seigneur. Parce que, Seigneur, notre bien, c'est de te ressembler. Et chaque jour, Seigneur, à travers chaque épreuve, tu nous appelles aussi à faire appel à toi et à te ressembler de plus en plus, Seigneur. Merci pour cette histoire de Ruth, de Boaz, de Naomi, qui sont des personnes qui vivaient des situations peut-être un peu une époque plus lointaine, mais finalement des situations assez similaires à ce que nous pouvons encore vivre aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, que lorsque nous reverrons ce texte, peut-être dans une lecture personnelle, qu'on ne regarde plus ce texte de la même manière, mais qu'on voit vraiment pleinement ta grâce dans ce texte, qu'on voit pleinement ta bienveillance, qu'on voit pleinement la bonté de Dieu, qu'on voit pleinement la grâce de Jésus-Christ mort à la croix pour nous. Parce que tu ne nous as pas seulement permis de manger à notre faim une journée ou de pouvoir travailler dans ton champ, mais au-delà de ça, Seigneur, tu nous as permis d'avoir la vie éternelle en abondance. Et ça, alors que nous ne le méritions pas. Merci encore, Jésus, pour ce sacrifice à la croix. Merci encore parce que le fait que tu sois monté au ciel nous a permis d'avoir ce Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous aide à dire « Abba, Père ». Et merci, Père, encore pour le fait de nous avoir sauvés et de nous avoir transformés pour ressembler de plus en plus à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.